cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand Dermoncourt.
On va écouter donc le troisième mouvement de la sonate de Franck en éliminant quelques versions d'un commun accord. On a donc retiré les versions numéro 2, 4, 5 et 8. Et donc on commence évidemment par la première.
C'est toujours le, comme les deux premiers mouvements, c'est magnifique comme climat. Hein. Bon, la sonorité extraordinaire du violiste, il faut dire que c'est un mouvement qui est fait, tout au moins ce début, vraiment pour le violiste. Hein. Le pianiste n'existe pas là. C'est, il est très récitatif, il est très dans le ton du récitatif. C'est un très beau violon. Il y a quelquefois des petits portamento à la limite du bon goût, mais
c'est fait avec une forme de panache, d'intensité dans le sentiment, de pudeur même, enfin d'une certaine manière, c'est un peu paradoxal, mais
oui, c'est très pudique. Moi je trouve ça idéal, hein, sincèrement. J'attends pas plus de ce début de premier mouvement. Il y a une tranquillité, une sérénité aussi. On a l'impression qu'il parle une langue naturelle.
Je trouve pas ça aucun... idéal, mais je trouve ça très beau.
Il n'y a rien qui bute par rapport à la partition. Tout se déroule absolument naturellement.
C'est très climatique, ouais. C'est beau. Ouais. Version numéro 2. Écoutez, non pas la deuxième version, mais la version numéro 3. Eric, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Mais j'ai tellement été subjugué par la première version que c'est un tout petit peu difficile pour moi d'entrer dans une autre version. On constate d'abord évidemment que c'est moins simple que 1, mais petit à petit on finit par oublier cette première version qui m'a tant plu. Et moi j'ai bien aimé le sentiment d'interrogation permanente, ils arrivent bien à tenir là-dessus, cette introduction n'est pas si facile que ça finalement, parce qu'il ne s'y passe pas énormément de choses, et ils arrivent bien à rendre ça. C'est, pour ce début en tout cas de mouvement, je trouve que c'est finalement assez réussi. Il y a un peu trop de mouvements un peu m'as-tu vu par moment, pourrait dérouler quand même un peu plus tranquillement les choses, je crois. Aussi bien au piano d'ailleurs qu'au violon.
Xavier ?
Je trouve que c'est un peu plus affecté que la première. Et également un peu moins fantasque, je dirais. Il n'y a pas ce côté très récitatif de l'autre. Le violoniste oublie totalement la barre de mesure, mais l'oublie un peu trop, je dirais. Il y a quelque chose qui me paraît un peu systématique, justement, dans cette recherche.
Moi, j'ai bien aimé, quand même, cette version. Elle est fine, un peu ravelienne.
Oui, le piano, surtout. Hein, il donne vraiment ce sentiment-là, oui.
Alors maintenant, nous allons donc oublier les versions numéro 4 et 5 qu'on n'avait pas trop aimées dans les deux premiers mouvements pour écouter la sixième. La version numéro 6, toujours ce côté un peu félin du violoniste, avec un son très particulier du piano, métallique,
mais une mauvaise de casserole. Oui. Mais un pianiste très intéressant.
Mais magnifique, intéressant, hein.
Très intéressant.
On a une impression de temps suspendu qu'on n'a pas eu dans les autres versions.
On a l'impression que vraiment qu'il prépare l'arrivée du violon. Il le laisse bien...
Plus que ça, moi je trouve même qu'il arrive un peu à sécher finalement l'atmosphère. Moi j'ai noté une atmosphère d'aridité, de désolation, qui est peut-être pas vraiment écrite dans la partition, mais tant pis, avec ce pianiste très très direct comme ça. Et du coup, le violoniste, il s'est un peu une voix seule dans le désert, puisqu'il a créé un climat de désolation.
Oui.
Et
oui,
c'est très très poignant, très touchant. Très moi, je suis parfaitement entré dans ce
mais, dans tous ce les début deux sont de très poignants. C'est pour ça que je disais qu'il prépare bien. C'est lui qui donne l'atmosphère au violon. Alors oui,
c'est une version qui est bien caractérisée quand même, oui, parce que oui. Déjà dans le premier mouvement, on avait cette même impression. Hein.
Avec un legato du violon qui est parfait. Ça c'est
ça, une beauté. C'est toujours aussi démonstratif, mais sans le côté superficiel qu'on pourrait trouver. Alors donc c'était la version numéro 6. Passons à la numéro 7. Thank you. vous avez un dubitatif, non?
Non, pas du tout.
Non, au contraire, c'est la concentration.
Je suis dubitatif parce que je trouve que toutes les versions qu'on a entendues jusqu'à présent sont vraiment excellentes. Chacune a son point de vue totalement différent sur la partition, mais chacune est absolument recevable. Là, j'ai entendu une espèce de classicisme. Je ne sais pas si le mot est très bien, mais il y a quand même une espèce de stabilité et puis une avancée tranquille. On n'est pas du tout dans l'angoisse comme dans 6. Mmh. On est plutôt dans la prière ou quelque chose comme ça. Et petit à petit, les choses se construisent. Il n'y a pas de rupture. C'est magnifique. Moi, j'ai été très, très pris.
Dans le recueillement. Dans le recueillement de la passion. Mais ce n'est pas une passion tragique. Hein, c'est une passion heureuse. Je dirais que c'est la version hédoniste. Quoi. C'est beau la vie. Hein, c'est beau la vie et ça chante bien. Et puis alors, le son du violon est absolument.
Oui, puis on avait noté des problèmes de déséquilibre hein, avec le piano, mais là, évidemment, là, puisque le violon est jeté devant de la scène tout seul, c'est bien meilleur. Alors maintenant, la 9e. Numéro 9. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ce climat de désolation dont on a parlé tout à l'heure.
Oh non, pas du tout au même point, je trouve.
Non, pas au même
point. Là, il y a tellement quelqu'un qui prend la parole, je trouve, avec... Enfin, pour le coup, là, c'est du récitatif. Hein.
Ah, ben moi, j'ai trouvé qu'il était plus fantasia que récitatif.
Oui, c'est vrai.
le récitatif au fantasia, il oublie un peu le récitatif pour être fantasia. Et il y a des rubato,
des accélérations quand il en a envie.
Mais c'est pas...
Il prend la parole, quoi.
Il prend
vraiment,
la parole,
c'est... Sur un tempo assez lent, quand même. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé que ça ressemblait à ce qu'on avait entendu tout à l'heure.
Mais
j'ai l'impression que vous avez... Enfin, manque peut-être d'aboutissement.
Oui, c'est un peu c'est un ton en dessous cohérent. De 6 et 7.
De 6 et 7, oui.
C'est un peu un ton en dessous, de, parce que les autres allaient plus loin dans leur logique, je pense. Oui. Il reste qu'on a encore une fois, violoniste et un violon exceptionnel, et que c'est un vrai plaisir d'entendre tout ça. Quoi.
Mais j'ai trouvé aussi que ça manquait peut-être un peu de dynamique.
Dans le son, vous
oui,
voulez
dans
dire
le son. Oui.
Oui. Bah, c'est peut-être pas une prise de son très récente, hein, qu'on, on ne sait pas, mais on découvrira ça tout à l'heure. La version numéro 10. C'est vrai, une fois de plus, c'est dur de couper hein, cette version numéro 10. C'est, on a un sentiment d'évidence. Alors moi, j'essaie de réfléchir un peu pourquoi, parce qu'on a de très grands violonistes et de grands pianistes aussi, des versions très climatiques, avec plein d'originalité dans le discours. Et alors, je me demande si finalement, dans cette dixième version, ce qui ne fait pas la différence, c'est la maîtrise parfaite de la forme. C'est-à-dire que chaque passage, chaque enchaînement, chaque phrasé est maîtrisé à la perfection.
Oui, on n'est pas du tout dans l'instant. Il y a une chose assez... Pardon, Xavier. Il y a un mélange de naturel et d'invention qui est un petit peu
surprenant.
Parce qu'on profite
du moment, parce
que
c'est beau.
Quand on suit la partition, comme je l'ai fait deux, trois fois, là, c'est assez curieux parce qu'ils sont assez audacieux vis-à-vis de la partition. Ils sont loin de suivre le texte à la lettre.
Là, vous ne parlez pas de la dixième, hein.
Si, absolument. ils sont loin de suivre le texte à la lettre, et pourtant, à l'écoute, ils donnent le sentiment d'être les plus respectueux de la partition, d'être parfaitement naturel et d'être parfaitement dans l'esprit. Et je crois qu'ils sont vraiment pris à bras-le-corps cette partition, et qu'ils ont effectivement analysé chaque moment, et on l'a bien senti d'ailleurs dans le moment où les choses s'accélèrent là pour le violon, que chaque appui est bien calculé pour faire avancer les mesures les unes après les autres, pour qu'on arrive au fortissimo de plus en plus fort sans en faire des tonnes. C'est vraiment impeccable.
Ça sonne pas du tout de manière artificielle.
Et là, on est tout à fait dans le recitativo fantasia. C'est pour ça qu'on a cette impression qui est de liberté par rapport au texte.
On a les deux, là.
On a les deux. On a les deux. On a un violon et un pianiste qui sont très libres, avec une densité. Et j'ai, comme pour les autres mouvements, l'impression que ça a été bien préparé, bien réfléchi, bien pensé entre les deux interprètes. Et qu'avant chacun de se mettre sur un instrument, ils étaient tout à fait d'accord pour faire ça.
Oui, puis c'est très bien enregistré par ailleurs. Alors, si on n'est pas déçu dans le final, on peut dire que c'est vraiment une version de référence déjà.
Pour l'instant, dans ces trois mouvements, c'est une évidence.
Oui. Oui.
On a toujours ce sentiment de proximité, non pas à cause de la prise de son, hein, qui au contraire nous éloigne, mais parce que le violoniste joue d'une manière tellement intense et simple en même temps.
C'est oui, il y a une grande simplicité. J'ai remarqué aussi une espèce d'art du legato qui est tout à fait fascinant. C'est vraiment plus comme ça qu'on joue maintenant. Il respecte vraiment à la virgule près les indications de coup d'archet de Franck. Et donc ça donne une espèce de fluidité très particulière.
Très fluide, c'est très serein également.
Oui, il y a une force intérieure.
Oui, il y a beaucoup de force intérieure. Très intense, très serein, je trouve. Alors là, absolument plus romantique. On est, il y a la passion, mais il y a pas d'excès.
Bon, ce début de mouvement n'est pas très romantique. Ce petit canon un peu gentil, avec un air qui se veut une sorte d'air populaire français ou quelque chose comme ça, c'est pas du tout le.
Non, mais c'est une grande version classique. Bon, on entend évidemment que c'est une version ancienne, mais qui est une sorte de référence du passé, sans doute.
J'ai trouvé le violon, la prise de son, le violon un peu grinçant, mais...
Ah bah là, la prise de son, là, en plus, là, le repiquage m'a l'air assez filtré, moi.
Plus, mais... le sonorité du violon m'a plus gêné ici que dans les autres mouvements. Mmh.
Mmh. La version numéro 3. Qui nous avait tant plu dans le premier mouvement. Moi, j'ai l'impression que plus on avance dans l'écoute de l'œuvre, plus on n'est pas déçu, parce que c'est intéressant, c'est mais même, c'est pas au niveau du premier mouvement.
C'est pas au niveau, on n'a pas l'impression que violon et piano jouent la même chose. Il n'y a pas de dialogue, ça manque de dialogue.
Non, du coup, ça sonne un petit peu scolaire, là.
Oui.
Bon, pas le violon, quand même, le violon reste très charmeur.
Il est charmeur. Beaucoup plus que le piano, justement.
Oui, non, le piano, ça va pas. Hein.
Mais on sent qu'ils ont été moins à l'aise pour travailler ce mouvement, peut-être. Là, ils étaient plus proches du premier en tant que climat, je sais pas. On est déçus. Alors on va à nouveau éliminer les versions intermédiaires pour passer directement à la 6.
Thank you.
Xavier, vous faites la moue, hein.
Oui, je suis un peu la moue. Il y a des choses que je comprends pas, c'est tout.
Déjà, l'énoncé du thème est un peu bizarre.
C'est un peu bizarre. Il y a des phrasés que je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils font, tous les deux. En tous les cas, ils sont pas ensemble.
Oui, non, mais ça part dans tous les cas.
Oui, puis on n'est plus dans le climat. On a l'impression que c'est un mauvais final de Beethoven, là.
C'est un peu religieux au début, et puis après, ça se met à accélérer, on ne sait pas pourquoi. Ça se met à ralentir puis, de nouveau, parce qu'on revient au début, donc on revient au premier tempo. Ça manque vraiment de simplicité.
Bah, ils n'ont pas su trop quoi en faire, là, on a l'impression.
Le Dolce Cantabile, là-dedans, il n'est pas tellement respecté. Hein.
Non.
Le Cantabile, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, moi.
C'est dommage parce que cette version nous avait bien plu jusqu'à présent. Il y aura une petite fausse note pour le final. Hein.
Pour le final, oui. Ça, c'est...
Alors voyons voir ce que donne la septième. Cette version numéro 7, au moins, on est dans le climat. Ça commence de manière très lumineuse. Oui. La phrase est bien énoncée. Et après, on tire tout dans le legato.
Oui, et puis ça continue toujours pareil. Et
voilà, moi, ça manque de variété.
De contraste.
C'est simple. Hein. Mais ça manque un peu de variété, effectivement. C'est pas, on est toujours dans le même climat. Mm. C'est ce qui me gêne un peu.
Du coup, le violon domine un petit peu trop, peut-être aussi. Ça vient peut-être de la prise de son. Ouais. On a l'impression qu'il tire un peu trop la couverture à lui dans le final. Oui. Version numéro 8.
Thank you.
version numéro 9 et non numéro 8. Là, on est sur un modèle complètement différent avec un tempo beaucoup plus vif. Xavier, ça a l'air de vous plaire beaucoup.
On est plus.
Bah, c'est un vrai final déjà, on peut dire.
Allegro moto qu'Allegro poco mosso. Hein. C'est ça. Mais ça avance. Hein.
Ça marche très bien.
Ça marche très bien. Ça marche très bien avec un très très beau violon. Et j'ai trouvé que le pianiste était beaucoup plus présent que dans les autres mouvements, dans les mouvements précédents, où il était un peu plus en retrait.
Mmh. Oui, son rôle est assez évident ici, parce que mine de rien, du fait que ça va plus vite, le violoniste est quand même assez en position de soliste aussi. Oui. C'est lui qui chante, c'est lui qui entraîne tout. La seule chose qui m'a un peu gêné, j'espère que dans la version 10, dont on attend beaucoup et qui nous a beaucoup plu jusqu'à présent, on l'entendra, c'est qu'on n'arrive pas à entendre ce basculement, ou en tout cas cette ambiguïté qu'il y a pour moi, en tout cas dans ce mouvement, entre un côté un peu, je le disais, pseudo-populaire, avec ce canon un peu charmant, et puis d'un seul coup, on passe au religieux un peu Bach, c'est le côté franc-organiste. Il y a ce basculement en permanence qui est, je trouve, un des aspects passionnants de ce mouvement-là. Et là, pour le coup, on n'avait pas du tout ça.
Non,
on était dans une espèce de continuité.
Là, ils font un final de sonate classique. Oui. Bon. Alors la fameuse version 10, c'est le moment de l'écouter. Que la version correspond au vœu que vous aviez énoncé avant de l'écouter, Eric, non ?
Pas tout à fait, parce que je trouve qu'il manque le côté religieux, on ne l'entend pas du tout, il m'a semblé. Mais on passe effectivement bien du côté, alors très obsessionnel au début, très musique, enfin, musique pseudo-populaire encore une fois au début, et puis ça s'anime, on passe vraiment avec autre chose, et le jeu des petites cellules qui se transforment, avec presque rien qui se transforme et qui donne un caractère complètement différent à l'œuvre, ça c'est vraiment très bien fait. Il y a tellement de finesse dans les phrasés
aussi,
et dans l'articulation.
Oui, il y a quand même une succession des climats, même si voilà.
Tous les climats qu'on veut. Oui. Tous.
Et avec une cohérence classique, comme on disait depuis le début, comme on dit depuis le début, pardon, sur cette version, qui est vraiment extraordinaire.
Oui. Ce que j'ai admiré, c'est ce passage de ce premier thème populaire, comme tu le dis, avec qui se termine de façon très véhémente, avec des coups d'archet très secs, à ce qui est marqué, piano subito delicato. C'est vraiment, on y est là, on y est vraiment. Hein.
Non, c'est très réussi. Et le pianiste aussi, je crois qu'il faut remarquer tout de même que par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, il y a une implication et une envie de jouer. Et puis aussi,
les deux mains, parce que c'est
voilà. Les deux mains, oui.
Et puis du preneur de son. Oui. On peut féliciter tout le monde, aussi. Enfin. Oui. Voilà, donc le bilan maintenant de cette écoute. Alors, je crois que vous avez tous compris quel était le vainqueur, mais on va reprendre l'ensemble des versions en partant de la fin. Donc, la version qui nous a le plus déçus, parmi les meilleures versions, je le rappelle hein, quand même, que Xavier on en a écouté une soixantaine et qu'on a donc écouté les 10 meilleures, ou en tout cas 10 qui représentent les meilleures dans ce que vous avez écouté, Xavier,
oui.
Ou emblématiques, disons, de,
oui, voilà.
Des différentes approches.
Emblématiques et les versions, je dirais, célèbres. Hein.
Donc la version numéro 10, je prends le disque, hein, on découvre devant vous, donc c'était la version de Laurent Corsia et Jean-Marc Louisada, une version récente.
Oui.
C'est assez étonnant, j'aurais pas imaginé ça parce que il y avait un pianiste qui était pas tout à fait à la hauteur de la tâche et on aurait imaginé que Louisada là-dedans se serait plus emparé de
bah
la
oui,
musique.
Il a fait tellement de beaux disques solo.
Oui.
Oui. Oui.
C'est une version récente qui.
Mais je suis pas du tout étonné que ce soit Corsia par contre.
Ouais, ouais. Bah, le deuxième mouvement, oui. Oui. C'est un peu décevant de sa part, mais bon. Savoir. Alors maintenant, donc la version que nous avons retenue. Ensuite, c'est la version numéro 5. C'est Gérard Poulet et Noël Lee, une version de 1991, c'est ça, Xavier ?
Oui.
Un petit peu décevante ?
Un peu décevante.
Oui, c'est dommage.
On n'en dit pas plus, mais c'est un peu décevant, parce que ce sont de grands artistes.
De 92, exactement. Notez que Poulet l'a fait en live avec Bruno Rigouteau en 2000.
Oui. C'est un peu ce que Poulet peut avoir de parfois un peu décevant, c'est-à-dire quelque chose, à force de vouloir être solide et sincère et authentique, il finit par être un petit peu monochrome, un peu toujours de la même façon.
Ensuite, nous avons la quatrième version, qui est une version des Kogan. Ça, c'est pas très connu pour le coup. Est-ce que vous
Alors,
pouvez
nous en
parler,
Xavier ? C'est la dernière version. Kogan l'a faite deux fois. Il l'a faite en studio avec Naum Walder. Un pianiste qui était l'accompagnateur vraiment alors l'accompagnateur hein, de Kogan comme tous ces grands violonistes Kogan choisissait des pianistes un peu effacés
et là on a qui
et là on a sa fille au piano qui est Nina Kogan dans un récital en 78.
Oui, cela dit, elle reste une accompagnatrice.
Hein. Oui,
donc
oui.
C'est à Salzbourg, et c'est sur le label Orfeo, je n'ai pas précisé les labels des versions précédentes, la version
Corsia,
CRCA, et la Poulet, c'est Arion.
Arion.
Donc maintenant, on va passer à la version numéro 8. Xavier, vous pouvez nous dire ce que c'est ? Parce que je n'arrive pas à lire.
Eh bien, c'est Perlman Ashkenazi.
Ah oui.
D'accord. Qui a été longtemps une grande référence. Hein,
qui a été longtemps une grande référence, c'est un peu pour ça que je l'avais choisi, parce que ça a été longtemps une grande référence. Voilà.
Ah oui, c'est surprenant, quand on relit nos notes, enfin, de voir ce qu'on a dit.
Le pianiste fait n'importe quoi. Il s'appelle quand même Vladimir Ashkenazi.
Voilà, mais bon. C'est ça l'écoute en aveugle, c'est parfois terrible. Mais une fois encore, c'est parmi les meilleures versions. maintenant, donc, ça, c'est la version numéro 9.
Donc, on commence à entrer dans le haut du panier, là.
Hein. Francesca.
Oui, je crois qu'après la version numéro 8, disons qu'on est dans les versions qu'on a retenues pour la fin. Donc, c'est vraiment les versions les meilleures, là. Hein.
C'est Francescatti, Robert Casadesus en 47.
Voilà, version bien connue.
Oui,
chez Sony,
bien
qui a été rééditée nombreuses fois en CD.
Oui, absolument.
Ensuite, nous avons la version numéro 3. Qui correspond, si j'arrive à lire sur le disque, c'est donc Pasquier-Collard, une version très connue aussi.
Pasquier-Collard.
Qui a marqué le début du CD.
Ouais, voilà.
Chez Lyrinx, donc.
Chez Lyrinx, Pasquier-Collard, c'est une version de 90 qui a été. Elle aussi fait longtemps figure de référence.
Oh, bah écoutez, elle n'est pas vraiment déçue non plus.
Sur le deuxième mouvement.
Sur le mouvement. Mais ça a été la grande version de Franck qui fut un temps. Hein.
Et avec un premier mouvement vraiment exceptionnel. Ouais. C'est le mouvement que j'avais préféré. Hein. Ouais. Dommage, après, ça s'essouffle un petit peu. Ensuite, nous avions la première version, donc version historique, plus ancienne que celle de Francescatti, sans doute.
Oui, bah, 1936.
Menuhin
et sa sœur.
D'accord. Ah.
Magnifique, très beau.
Voilà.
Comme tous les premiers enregistrements de Menuhin. À chaque fois, on est vraiment ébloui par les versions.
Il l'a refaite bien des années après avec son gendre, le Lertner.
Pour Amy, donc.
Oui, pour Amy.
Bah, là aussi, hein, mais la réédition que nous avons entendue, choisie par Xavier, c'est celle de Naxos.
Naxos. Alors, la seconde version de Menuhin est très décevante. C'est une version qui date du temps des grands problèmes
comme
physiques
souvent,
de Menuhin.
Je suis frappé, alors maintenant c'est facile de le dire, mais comme on avait le sentiment tout de même d'entendre un violoniste de style français et qui est bien caractéristique du premier Menuhin.
Mais il faut quand même voir que Menuhin a eu comme professeur très, je dirais très, 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 très rapide, Adolphe Busch et Enesco, qui étaient qui, malgré leurs origines, l'un allemand, l'autre roumain, étaient des violonistes très classiques, très français.
C'est pas une surprise, mais c'est frappant, là.
Non, et puis il y a cette intensité, et puis peut-être aussi le côté lumineux qu'on a chez Menuhin. Je sais plus qui est-ce qui a dit un peu sur de lui, mais...
Oui.
Alors, très différent, la version numéro 6, Oakstrike en live.
Oistrakh en live avec Richter.
Un concert à l'Opéra de Paris.
Voilà.
Et ça, c'est une rareté pour le coup. Vous ne la connaissez pas, cette version.
Chez Chant du Monde. Mmh. Alors, il l'a faite deux fois avec. C'est une version.
Il ne l'a pas faite, c'est des concerts
de,
en disque. Hein.
De 68. Si ma mémoire est bonne, oui, 68.
C'est ça. C'est ça.
Alors, il l'a faite deux fois en 68 avec Richter, une fois en studio. Une fois en live.
Oui, d'accord. Et vous avez préféré la version live ?
Oui, pour le côté émotif qu'on a, très prenant.
Oui, on a parlé de coups de poing, moi j'ai parlé d'aridité.
Ah oui, c'est totalement à part. Hein,
qu'on
n'a
pas, en studio.
D'accord. Et la version studio, elle est chez Melodia, c'est ça ?
Elle est Melodia, oui.
Alors là, on arrive vraiment dans les deux meilleures versions. Donc, une autre version studio qu'on a vraiment adorée.
Oui.
Qui est donc, évidemment, il fallait qu'elle
soit... C'est la version numéro 7,
C'est une des grandes versions de référence.
C'est Philips, 78.
Voilà, la version de Grumio.
Grumio, c'est Vogue. Grumio l'avait faite avant avec Ivan Ashdou. Un pianiste, très bon pianiste, mais un peu plus effacé que Sebog dans son...
Donc ça, c'est dans les années 70.
Oui.
Grande version de référence qui a été rééditée souvent par Philips, différents, soit des programmes Franck, soit là, en l'occurrence, le disque qu'on a écouté, c'est dans la version de la collection Musica da Camera, qui est couplée avec les sonates de Fauré. Et le grand vainqueur, voilà, on le découvre.
Voilà, ça, c'est...
Que vous, c'est Christian Ferras.
Christian Ferras et Barbizet.
Voilà, pour Deutsch.
Pour Deutsch, parce qu'il l'avait fait avant chez EMI.
Une version très réputée aussi.
Moins réputé que
la version de
Jean-Marc.
Pour une surprise, c'est pas une surprise alors.
Non,
c'est pas.
Mais je les ai pas reconnus.
Non, mais ça confirme parce que.
Pourtant, on reconnaît très bien le grain de violon de.
Oui, mais j'ai pas reconnu la version, j'ai pas reconnu. J'avais pas ce sentiment, ce souvenir en tout cas, dans l'image que j'avais de cette interprétation.
Mais en tout cas,
n'était pas aussi complète que ça, aussi stable, aussi raffinée que ça. Je voyais quelque chose plus immédiat. Et je suis très heureux de voir qu'en aveugle, c'est en fait une version aussi extrêmement subtile, extrêmement travaillée.
Oui, il n'y a pas eu de discussion.
Alors ça, c'est
parfois...
Ça fait partie d'un gros
ambigu,
coffret...
Disons, discuter nos écoutes, mais là, on a vraiment un grand vainqueur, donc on vous conseille de réécouter.
Ça fait partie d'un gros coffret. Il y a un gros coffret.
En réalité,
il y a deux disques. Il y a le queue dedans.
Dans la collection double de Gramophone.
Elle a été aussi rééditée en Originals avec la le queue, je crois, non ?
Il y a la le queue avec, dans ce coffret de chez Deutsch.
En tout cas, si vous cherchez, vous le trouverez.
Oui.
Et on vous engage, en tout cas, à réécouter cette version vraiment en première écoute. Et puis peut-être, si vous voulez un climat totalement différent, d'essayer de trouver cette version d'Oistra qu'on a,
avec
qu'on
Richter,
a beaucoup aimé. Parce qu'en fait, la version Grumio, qui est remarquable, est un
elle duplique un petit peu celle.
Mais je dirais que pour une première écoute, c'est Ferras qui...
On est tous d'accord. Voilà. Alors, bonne écoute de la sonate de Franck avec Christian Ferras et Pierre Barbizet.
Cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand Dermoncourt.